VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Bonjour à tous, il est 9h en temps universel. Les combats faisaient rage ce mercredi dans la capitale libyenne entre les forces loyales au gouvernement d'Union nationale GNA et des combattants rivaux. Les combats à l'arme lourde se poursuivaient en matinée autour des palais des hôtes qui servent de quartier général à des groupes armés fidèles à l'ancien chef d'un gouvernement non reconnu, Khalifa Gouel, écarté du pouvoir à Tripoli en avril après la formation du GNA. Khalifa Gouel, qui a multiplié les gestes de défiance à l'encontre du GNA, est appuyé par des milices de sa ville natale de Misrata dans l'ouest de la Libye, ainsi que par d'autres groupes à Tripoli, basés notamment dans le sud de la capitale. En Gambie, c'est en rang dispersé que la coalition au pouvoir ira aux législatives du mois prochain, un revers pour le président Adama Barrow au moment où il met en œuvre des réformes, les précisions de Michel Joseph.
Après sa victoire à l'arraché face à l'ancien président Yahya Jammeh, le président Barrow avait promis que sa coalition continuerait de gouverner comme une famille. Toutefois, des documents publiés cette semaine par la commission électorale gambienne montrent que 239 candidats représentant 9 partis brigueront des sièges à l'Assemblée nationale le mois prochain. 6 de ces partis avaient uni leurs forces pour soutenir le président Barrow et mettre fin à 22 ans de pouvoir de Yahya Jammeh. Selon une source, le désaccord est au sein de la coalition née des questions de représentation et de répartition des sièges. Sous Jammeh, l'Assemblée nationale n'était qu'une simple caisse de résonance des décisions de l'exécutif. Le nouveau président a promis de collaborer étroitement avec les législateurs, notamment sur les réformes constitutionnelles. Toutefois, l'éclatement de sa coalition pourrait redonner du tonus à l'Alliance patriotique pour la réorientation et la construction. L'ancien parti au pouvoir, qui demeure une force politique en Gambie, malgré le départ en exil de son fondateur, Jammeh.
Des dizaines de petits entrepreneurs libériens ont retrouvé le sourire depuis la mise en service en décembre d'une unité de la centrale hydroélectrique de Mount Coffee. C'est près de Monrovia, détruite durant la guerre civile. La centrale a été réhabilitée à partir de 2010 avec des financements américains et européens, notamment atteignant près de 336 millions d'euros.
VOA Afrique en direct de Washington.
Et au Kenya, un accord enfin entre le gouvernement et des représentants de médecins du secteur public. Ils sont parvenus à un arrangement hier pour mettre un terme au conflit social qui a paralysé le système de santé publique du pays pendant 100 jours. Jacques Aristide.
Une grève inhabituellement longue et particulièrement acrimonieuse. Les autorités kenyanes ont plusieurs fois menacé de licenciement les médecins et obtenu que leurs représentants syndicaux soient incarcérés pendant 2 jours le mois dernier. Elles avaient même menacé de recruter des médecins indiens pour remplacer les grévistes. L'accord conclu hier met fin au mouvement, mais c'est un accord de compromis, car de nouveaux pourparlers doivent avoir lieu pour parachever les négociations salariales. Les médecins kényans réclament une importante revalorisation de leur salaire et de meilleures conditions de travail, y compris de meilleurs équipements dans les hôpitaux publics. La hausse salariale, rappelle-t-il, figurait dans un accord paraphé en 2013, mais jamais appliqué. À l'approche des élections prévues en août, cette grève était devenue un dossier épineux et potentiellement dommageable pour le président Uhuru Kenyatta, qui briguera un second mandat.
Une délégation de représentants de l'opposition syrienne est attendue aujourd'hui. Ce soir, à Astana, la capitale du Kazakhstan, a annoncé le ministère kazakh des Affaires étrangères. Un porte-parole du ministère a indiqué que la délégation va s'entretenir avec des représentants de la Russie, de la Turquie et de l'Iran. L'opposition disait vouloir boycotter les pourparlers d'Astana, déplorant la poursuite de frappes russes dans les zones rebelles et le peu d'efforts de Moscou pour pousser l'armée syrienne à respecter le cessez-le-feu. Et puis ici aux États-Unis, le président Donald Trump s'est acquitté de 38 millions de dollars d'impôts en 2005 sur des revenus de plus de 150 millions de dollars, annoncés mardi la Maison-Blanche après des révélations de la chaîne MSNBC qui dit avoir obtenu 2 pages de cette déclaration d'impôts. Les documents en question publiés sur le site de MSNBC montrent que Donald Trump a fait l'objet d'un taux d'imposition de 25%. Jean-Roger Billon à ce micro. Je vous retrouve dans 55 minutes pour un nouveau point de l'actualité. À tout à l'heure.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.